cinématographique.
Mais parlons de sa beauté intérieure, non. Alors, à la hauteur de sa...
Mais je crois que ça, c'est une chose qui commence avec notre grand-mère, ma grand-mère, sa mère, qui fait beaucoup de choses socialement durant la guerre, etc. Après, à San Francisco, pour les jeunes militaires qui revenaient du Vietnam. C'est une culture, mais je suis en train de le passer maintenant. Ma fille Emma vit à Brooklyn, à New York. Elle fait des événements pour UNICEF tous les mois. Donc, elle va non seulement, mais elle empaquette les choses. Et c'est, donc, ça devient une culture familiale.
L'engagement
chose. L'engagement.
Donc, c'est l'engagement, comme ça que vous le traduisez.
L'engagement fait partie, je crois, de créer une propreté mentale et de savoir sa place. Parce que si elle était élégante, c'est parce qu'elle disait toujours, il faut savoir comment s'habiller. Mieux d'être celui moins habillé à un cocktail que celui le seul dans un black tie. Et tu vas vraiment être hors du coup. Et donc, savoir sa place, très important, je crois.
Mais est-ce qu'elle se sentait à sa place au cinéma et à ce niveau de cinéma?
Pas du tout. Pas du tout. Elle se voyait...
Déjà, elle n'y a jamais... Son choix.
Je regardais un interview ce matin, parce que bien sûr, il y a beaucoup de vidéos dans l'expo. Et elle disait, dans ce merveilleux interview pour la télévision hollandaise, j'ai jamais cru, au fond. Et c'est charmant, si on y pense, elle n'y a jamais cru. Elle dit, je vois les résultats, mais pourtant, je n'y crois pas vraiment.
Elle ne se sentait pas légitime?
Je pense qu'elle elle se rendait légitime en travaillant, en prenant les choses sérieusement, comme d'ailleurs, quand elle l'a fait pour UNICEF, il y a une merveilleuse partie de l'exposition, parce que la maison en Suisse, La Paisible, est l'endroit où elle allait finalement sentir les roses et passer quelques années tranquilles. Pourtant, c'est là que l'engagement pour l'UNICEF naît et qu'elle commence à faire toute cette recherche, des milliers de pages écrites à la main de discours qu'elle fera au long des années en tant qu'ambassadrice. Et donc, mais quelqu'un qui a toujours pris les choses sérieusement, que c'était d'être là à temps le matin, d'être gentil avec l'équipe. J'ai jamais entendu une personne dire du mal d'elle sur une équipe à Hollywood, ni quelqu'un vraiment se comporter mal devant elle. Très intéressant.
Elle avait une forme d'autorité?
Je crois. Les gens respectaient, savaient que ce n'était pas le moment.
Ça agissait sur vous aussi?
Pas nécessaire, parce qu'on avait déjà cette entente et cette amitié. Et donc, par respect, c'était une relation, la nôtre, qui était basée sur essayer de se mettre dans les chaussures de l'autre. Et une fois, quand on pense, elle disait toujours, c'est très facile quand tu penses à l'autre, ce qui est le mieux pour l'autre. Les relations ne fonctionnent pas quand il n'y en a qu'un qui le fait et l'autre pas.
Il y a cet engagement pour l'UNICEF auprès des enfants qui est véritablement devenu son souci premier dans les dernières années de sa vie. Vous avez senti qu'elle changeait au contact de ses enfants?
J'ai senti qu'elle en parlait en parlant de ce qui était sa carrière la plus importante. J'ai senti qu'elle avait le cœur brisé. J'ai senti qu'elle s'est sentie trahie. Après une deuxième guerre, on a juré qu'il n'y aurait plus de concentration, camp de concentration, de se retrouver dans des camps de concentration en Somalie et au Soudan avec 30 000 personnes. Le silence absolu. Le silence, parler d'entendre seulement les mouches, c'est exactement ça. Les gens d'une nobilité extraordinaire en attendant de mourir.
Donc c'est l'enfant de la guerre là qui réagissait, qui se disait finalement rien.
Elle s'est sentie trahie. On lui avait promis que ça ne se passerait plus jamais et pourtant la voici. Et c'est pour ça qu'elle parlait de responsabilité collective plutôt que de culpabilité.
Et elle aurait pu continuer encore longtemps psychologiquement à s'engager, parce que son voyage en Somalie avait été particulièrement traumatisant pour elle.
Je pense qu'elle était malade aussi, et donc c'est ça qu'on vit. On pense que c'est des traumatismes parce qu'on la voit comme ça, mais je pense que la maladie était déjà très avancée.
Mais vous sous-entendez dans votre livre que peut-être cette maladie a pu avoir un lien avec ce qu'elle a pu voir.
Mais je pense que tout ce que l'on vit émotionnellement a une relation aussi forte sur notre système immunologique qu'une douleur physique ou que être exposé à quelque chose qui nous fait du mal. Et donc, je crois qu'elle s'est sentie cassée. D'ailleurs, on en parlait quand elle était dans son lit et je lui disais... on va te soigner, on va retrouver. Elle disait, je veux, mais je ne sais plus comment reconnecter the top and the bottom. D'ailleurs, la maladie était dans l'estomac, donc
c'est comme
le bas et le haut. Et elle l'a vécu avec une grande simplicité, une grande tranquillité.
Une grande élégance.
Une grande élégance, bien sûr. Mais, et elle disait, c'est la nature, l'arbre, le plus vieux a tombé pour que le rayon de soleil puisse passer, bla, 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 bla. Mais je crois qu'elle savait que quelque chose s'était cassé.
Est-ce que, malgré tout, à la fin de sa vie, vous avez senti que quand même, elle était un peu fière d'elle-même, de son parcours, de
qui elle était. Mais ce n'était pas quelqu'un qui avait besoin de ça. Je pense qu'elle était en paix avec elle-même parce qu'elle avait fait le mieux qu'elle pouvait. Et là, ce n'était pas une fausse humble, non. Elle savait, elle voyait, elle entendait les gens. Elle voyait comment les gens réagissaient à ce qu'elle avait fait. Et donc, absolument, oui. Je crois qu'elle est morte, l'âme en paix, parce qu'elle a fait abaisser ce qu'elle voulait faire. De toutes les façons.
On dit que parfois les traumatismes se poursuivent à travers les générations. Est-ce que vous avez pu ressentir dans votre propre vie, à vous, ce traumatisme qu'elle avait eu, qui était le départ de son papa et finalement sur lequel elle revenait souvent, cette blessure qui restait.
Je ne pense pas qu'elle revenait. Mon père l'a senti quand ils se sont connus et ils ont été vivre en Suisse. Et il a entendu ce qu'elle disait et il lui a dit, écoute, ici, on a besoin de clôture, non ? Closure, comme on dit en anglais. Et donc, c'est ça qu'il a voulu l'amener en Irlande, rencontrer le père, le voir maintenant comme adulte, plus comme une cristallisation d'un enfant, mais comme un adulte. Et d'ailleurs, elle est descendue, il était dans le lobby, et ça lui a pris une minute pour comprendre que l'homme était un paraplégique émotionnel. Et ça lui a tout de suite permis de dépasser tout ce qu'elle... de revoir... de tout ce qu'elle avait vécu et comme elle avait perçu la chose. Et elle a dit à mon père en rentrant en Suisse, elle a dit, je ne crois pas que j'ai plus besoin de le revoir. Et pourtant, elle le maintient jusqu'à la fin de ses jours financièrement.
La relation avec nos parents détermine, et vous le dites d'ailleurs dans votre livre aussi, souvent les choix qu'on peut faire plus tard, les réussites, les échecs. En quoi avoir été le fils d'Audrey Hepburn, de Mel Ferrer, a pu influencer votre vie.
Mais la grande chance que j'ai eue, c'est que je n'ai pas été le fils d'une star, ni d'un acteur, ni d'un metteur en scène. Ça, c'est la plus belle chose. Je n'ai pas grandi en me disant « waouh ». Non. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui, bien qu'ils faisaient ce métier-là, ne nous ont pas éduqués dans cette façon de voir les choses. Et donc, vie normale, plus ou moins normale, avec des réflexions normales avec des décisions justes et une vision des choses pas hors de ce monde, du tout.
Merci Sean Hepburn Ferrer, merci d'être venu sur le plateau de Retour aux Sources. On rappelle cette exposition à voir absolument Intimate Audrey à l'espace Vanderborg, rue de l'Écuyer jusqu'au 25 août. Merci d'avoir été avec nous.